Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Jitsi, logiciel libre de visioconférence. Également au programme des nouvelles de Framasoft et du collectif Chaton, collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Également l'interview d'un professeur de technologie en collège. Et on commencera par une chronique sur le confinement, bien entendu. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous y trouvez déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas à nous faire également des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration ou pour poser toute question. Nous sommes mardi 7 avril 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je précise que comme les deux éditions précédentes, l'émission est diffusée dans des conditions exceptionnelles suite au confinement de la population. Toutes les personnes qui participent à l'émission sont chez elles, et d'un point de vue technique, ce coup-ci nous utilisons Jitsi, car nous aurons le plaisir d'avoir en fin d'émission le créateur de Jitsi. Nous espérons que tout se passera bien et je vous prie, excusez-moi, de nous excuser par avance si des problèmes se produisent. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant le direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse, libre à vous. Alors, je vais commencer par le programme détaillé de l'émission du jour. Donc, nous allons commencer par quelques secondes par la chronique La Pituite de Luc qui va nous parler de confinement. Ensuite, nous prendrons des nouvelles de Framasoft et du collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, c'est-à-dire les chatons avec Angie Gaudion. Puis nous prendrons des nouvelles de Laurent Joetz, qui est professeur de technologie en collège. Et enfin, nous aurons le plaisir en fin d'émission d'avoir avec nous Émile Ivov, le créateur de Jitsi, donc solution libre de visioconférence très utilisée en cette période de confinement. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, William de la radio Cause Commune. William anime deux émissions sur la radio, Cyberculture le samedi à 14h et Pour Cause le mardi à 21h. Tout de suite, place au premier sujet. Donc nous allons commencer par la chronique La Pituite de Luc, intitulée « Ça sent le confiné ». Luc, est-ce que tu es avec nous ?
Oui, Fred, je suis là, je suis à la porte du studio, tu m'ouvres.
Tu es à la porte du studio ?
Ben,
moi, je suis chez moi.
Pourquoi ?
Ben, parce que c'est le confinement, il n'y a personne au studio.
Ah d'accord, l'émission sur la distance, mais moi j'ai risqué ma peau pour venir. Il y a des patrouilles de police partout. J'ai rampé sous des barbelés et évité des patrouilles cynophiles. Je ne voulais pas mourir de saturnisme foudroyant en pleine épidémie de Covid, ça ferait con. Alors du coup, je suis prudent, j'ai emballé mon téléphone dans du papier alu pour qu'Orange ne puisse pas me traquer. Je sens malgré ça le souffle chaud de Stéphane Richard sur ma nuque. Je suis sûr qu'il me stalke. Si j'ai pris tous les risques pour venir, c'est que ça fait 3 semaines que ma vie n'a plus aucun sens. Assigné à résidence, je tourne en carré, lit, WC, cuisine, salon. Ma vie est devenue un cauchemar. Avant, je rêvais que j'avais oublié mon froc en partant au boulot. Je réalisais soudain, avec effroi, que j'avais les fesses à l'air. Maintenant, c'est plus un cauchemar, ça m'arrive tout le temps en vrai, et ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que le chauffage est bien réglé. Faut dire que, coupé du reste du monde, je me laisse aller. Avec la visioconférence, le bas de mon corps n'a plus d'existence sociale. Les rares fois où je prends une douche, je ne lave plus que la partie frontale située au-dessus du nombril. La surcharge de la bande passante m'épargne au moins un tour de douche supplémentaire parce que la vidéo est trop moche pour qu'on puisse voir les mouches. Ne sacrifions pas la neutralité du réseau pour favoriser le télétravail. Il faut que ça reste comme ça. À ce propos, mention spéciale à Jitsi qui permet de choisir la qualité de sa vidéo. Je suis admiratif de voir que la user story « J'ai une hygiène négligée, mais je conserve ma dignité » est couvert. S'il vous plaît, continuez à bien faire et n'implémentez surtout pas l'odorama. La masse musculaire de mes guibolles a été réduite de 50% à force de ne pas les utiliser. J'ai l'énergie d'un stagiaire photocopie de l'ISS de retour à la maison. J'envisage même de me faire amputer des deux jambons. Qui a encore besoin de ses membres inférieurs quand son univers se résume à un écran, un clavier et une souris? Alors certains gardent le moral en faisant des masques, des respirateurs sous licence libre ou mettent en place des chatons. Moi, je ne sers à rien, confiné que je suis. J'ai bien réglé un truc ou deux à la maison, mais il ne faut pas être une lumière pour changer une ampoule. Et surtout, ça ne change pas la face du monde. À un moment, j'ai cru que mes chroniques apportaient un peu de réconfort à mes voisins, vu qu'ils sortent tous à 20h pour applaudir. Mais en fait non, j'ai découvert que c'est destiné au personnel hospitalier, alors qu'on n'a pas d'infrastructure médicale dans le quartier. Après avoir stocké des kilomètres de PQ, ils applaudissent des gens qui ne sont pas là. Cette vie n'a vraiment plus aucun sens. Seul face à moi-même, je ne découvre que le néant. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi, a dit Nietzsche. Mon regard plonge bien, je ressens l'angoissant appel du vide. En revanche, l'abîme ne me calcule pas. Il se refait plutôt les 10 saisons de Friends, il en est à l'épisode 112, celui où les protagonistes discutent dans un appartement. Il y a au moins un truc qui fait sens dans cette crise. L'informatisation de la société nous évite le pire, et pas seulement de ne pas mourir d'ennui. Certains se disent que ce monde à l'arrêt est l'occasion de repartir sur des bases saines. C'est pas gagné, car même si la fin du confinement et le début de la crise économique seront assurément des catalyseurs, il y a pas mal de gens qui aussi attendent la fin du Covid-19 pour recevoir le colis de contrôle social qu'ils ont commandé sur AliExpress. À l'heure où plein de confinés sont littéralement sans culottes, peut-on espérer la fin des privilèges et de retrouver nos libertés? Quand on y pense, on peut très bien faire la révolution depuis son canapé quand on est admin 6. Pas besoin de sortir sur un rond-point pour bloquer le pays. La révolution en télétravail est à portée de clic. Il pourrait alors confier la gestion de l'épidémie à un service support, des gens habitués à s'exprimer sans se contredire, en s'appuyant sur l'avis d'experts qui répondent à côté de la plaque. On piloterait le monde comme un gros projet informatique. Alors je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Voilà, finalement, j'aurais peut-être dû rester confiné. L'avenir semble se jouer sur mon canapé.
Bah écoute, Luc, merci pour cette belle chronique. Et je me permets quand même de t'applaudir. Je ne vais peut-être pas le faire parce que sinon, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit sur le micro. J'espère quand même qu'on aura le plaisir de te voir au studio le mois prochain, parce que ça voudrait dire que le confinement est terminé.
Bah, celle-ci était la bonne, normalement. Mais bon.
Normalement, celle-ci était la bonne. J'ai l'impression que tu le fais un petit peu exprès. Mais enfin, bon. Donc, c'était la chronique, la pituite de Luc, donc de l'incroyable Luc avec un K et son site, c'est incroyableluc.org. Bah, Luc, on se retrouve donc le mois prochain, soit toujours en confinement, soit peut-être à la porte du studio, soit à l'intérieur du studio.
Très bien. Eh bien, merci.
Merci. Et bonne journée à toi. Alors, exceptionnellement, nous n'allons pas faire de pause musicale parce que nous avons un programme chargé. Donc après cette chronique donc sur le confinement de notre ami Luc, nous allons prendre des nouvelles d'acteurs importants dans le monde du libre. Évidemment, c'est Framasoft et le collectif Chaton, dont on va expliquer un petit peu ce que c'est. Donc normalement, nous avons avec nous Angie Gaudion de Framasoft. Angie ?
Bonjour.
Alors bonjour Angie, comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va bien.
Ça va bien ?
Confiné.
Confiné,
voilà. Confiné au soleil.
Confiné au soleil. Ah, voilà, ça c'est vrai qu'il fait beau en plus aujourd'hui. Donc l'idée un petit peu de cet échange, c'est un petit peu de prendre des nouvelles donc de Framasoft et du collectif Chaton, pour notamment depuis le début du confinement. Alors je vais préciser aux personnes qui écoutent l'émission que nous avons déjà reçu Angie à deux reprises pour parler notamment donc de Framasoft et du collectif Chaton. Donc c'était dans les émissions du 16 avril 2020 et dans l'émission du 18 juin 2020. Donc vous retrouverez les podcasts sur april.org et sur causecommune.fm. Et on a fait aussi une antenne libre sur les chatons plus récemment dans le cadre du confinement. C'était le 19 mars 2020. Pareil, les podcasts sont disponibles sur les deux sites.
Alors, je vais peut-être te corriger, juste, c'était 2019 les deux premiers, parce que avril 2020, c'est...
Oui, j'ai dit 2020
Ouais, c'est pas grave, mais les gens vont croire que t'as anticipé les prochaines émissions.
Donc effectivement, c'est 16 avril 2019 et 18 juin 2019 pour l'émission consacrée aux chatons, et l'antenne libre, c'était plus récemment, c'était 19 mars 2020. Voilà, merci d'avoir corrigé. Alors, on va prendre un petit peu donc des nouvelles de Framasoft et donc du collectif Chaton. On va peut-être commencer un petit peu par Framasoft. Donc le site, hein, framasoft.org, site bien connu avec qui propose un ensemble de services libres. Et avec le confinement et avec les problèmes à l'éducation nationale, notamment, dont on parlera après avec Laurent Jouetz, Framasoft a été au centre de plein de d'attentes, d'utilisation de services. Donc comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières semaines?
Effectivement, dès l'annonce du confinement, on a au sein de l'asso, on s'est dit qu'on allait avoir forcément une recrudescence d'utilisateurs et d'utilisatrices sur nos services. Donc, on a essayé, dans un premier temps, de pouvoir pallier cette charge qui arrivait de manière globale. Donc, la plus grosse partie de nos activités au tout début de la période de confinement, donc vraiment sur la première semaine, ça a été de maintenir et de renforcer nos services, en fait. Donc, on a monté des nouvelles instances pour les services les plus utilisés qu'on a, donc à savoir Framapad, qui fait la rédaction collaborative, Framatalk, donc qui est une instance Jitsi, et Framadrop pour le transfert temporaire de fichiers. puisque on a estimé, alors ce qui est assez compliqué parce que comme on récolte absolument pas de données personnelles sur ces données, on ne sait pas exactement le nombre d'utilisateurs, mais on a eu des montées de charges vraiment très très importantes, et donc il a fallu qu'on trouve le moyen de pouvoir accueillir un maximum de monde, tout en faisant le choix d'indiquer que l'éducation nationale, en tout cas les enseignants et les élèves, n'étaient pas les bienvenus sur nos services. Non pas qu'on ne veut pas qu'ils soient là, hein. Voilà, enfin, c'est pas qu'on ne veut pas leur fournir service, c'est que si effectivement on a 800 000 enseignants et 12 millions d'élèves qui débarquent avec nos petits serveurs, on était incapable de supporter ça et ça aurait tout fait planter. Donc on a fait un choix que nos services soient disponibles davantage pour les télétravailleurs, des petites structures, PME, associations, plutôt que du coup pour le ministère. Ce qui du coup a fait un peu causer effectivement de ce côté-là, mais à un moment voilà, on a considéré que le ministère avait largement le temps de préparer une infrastructure technique voilà, depuis des années voilà, ils auraient pu faire ça, a priori ils l'ont pas bien fait puisque du coup voilà, les enseignants se retrouvaient assez démunis, mais ça a été notre discours initial qu'on a changé depuis hein, c'est-à-dire que depuis la semaine dernière, on n'a plus ce message sur les pages d'accueil de nos services. Non, du coup, voilà, parce qu'aujourd'hui, on est en mesure, du coup, d'absorber davantage de charges, tout simplement, puisque voilà, on a davantage d'instances. Et on a aussi fait quelque chose, c'est que sur Framapad et Framatalk, en fait, du coup, on a aussi renvoyé, du coup, vers d'autres instances externes. C'est-à-dire qu'on a identifié, voilà, d'autres structures qui proposaient ces instances-là. Et quand vous créez un pad sur ces outils, du coup, vous le créez pas forcément chez nous. Voilà, vous pouvez aussi le créer à l'extérieur. On a fait un choix du coup de répartir la charge entre différentes organisations, dont la majorité sont effectivement des membres du collectif Chaton, dont on parlera tout à l'heure.
On voilà. Précise peut-être que le terme instance, en fait, c'est des sites web quelque part. Si les gens comprennent
oui,
pas, c'est qu'une instance est une version du site web qui permet, par exemple, de faire de la visioconférence, de la téléphonie ou effectivement du bloc-notes. Alors, sur le salon web de la radio, on me demande de préciser de quel ministère il s'agit. C'est le ministère de l'Éducation nationale, bien entendu. Je te laisse poursuivre.
Bien sûr, on s'est rendu compte que du coup, avec cette charge sur nos services, sur les logiciels qu'on utilisait, il y avait besoin aussi de les enrichir avec quelques fonctionnalités. Donc, mes collègues techniciens, du coup, ont résolu des bugs, ajouté du coup un certain nombre d'éléments sur plusieurs logiciels, et en particulier Etherpad, qui permet de faire de la rédaction collaborative en ligne. On a aussi mis en place une instance du logiciel Mumble. Donc, on a installé sur nos serveurs, du coup. Un Mumble public, on en avait déjà un, mais plutôt qu'on utilisait en interne au sein de l'asso. Donc là, qui permet, donc qui fait de l'audioconférence, on n'est pas sur de la visio. Et ensuite, on a même du coup proposé une interface web pour éviter que les internautes du coup aient besoin d'installer un logiciel ou d'installer une application sur leurs appareils. Voilà. Donc maintenant, il y a une interface web qui permet d'y accéder sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit.
Et effectivement, ça, c'est une très bonne chose, parce que nous aussi, on a un Mumble à l'April, et j'ai passé beaucoup de temps, notamment dans le cadre de la radio aussi, à essayer d'expliquer aux gens comment installer le client Mumble. Ça paraît relativement simple, mais en fait, ça n'est pas forcément super aussi simple que ça pour tout le monde. Et le fait d'avoir un accès web directement donc à un Mumble, donc à l'audioconférence, permet vraiment à n'importe qui de pouvoir l'utiliser avec une qualité audio qui est quand même nettement supérieure à beaucoup d'autres outils. Donc, c'est vraiment une très bonne chose.
Et c'est vrai que sur notre service Mumble, on peut accueillir jusqu'à 6500 personnes en même temps. Voilà. Donc, en termes d'accueil, pour le coup, on est vraiment sur un service qui permet d'accueillir vraiment beaucoup de monde de manière simultanée sans que ça voilà, nous impacte, nous, au niveau technique. Et puis, on a aussi, sur le plan technique, mis en place un outil suite à la demande qu'on a reçue, du coup, de médecins. Qui, du coup, était un peu embêté avec le fait qu'il devait faire de la prise de rendez-vous via les services habituels qu'on connaît, Doctolib et compagnie, ce qui leur semblait pas super classe en termes de protection des données personnelles de leurs futurs, de leurs patients. Et donc, on a monté via le logiciel Nextcloud, du coup, une interface qui s'appelle Rendez-vous médecin, qui leur permet bah, justement voilà, de proposer à leurs patients de prendre rendez-vous par ce biais-là, en étant dans un contexte sécurisé qui ne récupère pas les données, etc. Donc voilà, mais mes collègues techniques ont vraiment développé voilà, quelque chose qui est totalement adapté en fait, à ce besoin.
D'accord, ça c'est un outil qui est donc réservé pour des médecins en fait, pour prendre la prise de rendez-vous.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Exactement, pour faire de la prise de rendez-vous.
Alors, je précise que tous les sites que va citer Engie, on mettra les liens directement donc sur la page consacrée à l'émission, hein, que ce soit sur april.org ou sur causecommune.fm, mais sinon en allant sur framasoft.org, vous les retrouverez assez facilement.
Donc voilà, ça c'était le premier élément, c'était vraiment faire que nos services puissent continuer à fonctionner et qu'ils puissent du coup être disponibles pour le plus grand nombre d'internautes. En parallèle, on a du coup documenté notre activité pendant le confinement en fait au sein de l'asso. On s'est dit que c'était vraiment très très important d'avoir un journal de confinement en fait qui racontait comment on vivait cette situation. Donc sur notre blog qui s'appelle Framablog, on a un certain nombre d'articles qui expliquent comment on a vécu les premiers jours, comment on s'est organisé, sachant que, par exemple, une partie de l'équipe salariée à Framasoft n'était pas en télétravail, même si une grande partie était déjà en télétravail, donc pour nous, c'est plutôt facile de s'y mettre. Mais quand même, voilà, comment on vivait les situations, qu'est-ce qu'on faisait, dans quel ordre on s'organisait, etc. Donc, on a cet aspect de documentation de notre présent, de notre vécu sur cette période. Aussi parce qu'on se dit que dans quelques années, ce sera quelque chose de assez intéressant à re-regarder, voilà, et pour voir comment on gère cette crise au sein d'une petite association qui fait du service libre. Donc tout ça peut se trouver sur le Framablog. Voilà. Pierre-Yves Gosset, qui est le directeur général de l'association, s'est lancé dans un travail monumental d'un mémo sur le télétravail. Parce que justement, on a une expérience intéressante dans ce cadre-là, puisque ça fait des années qu'au sein de l'association, une grande partie d'entre nous télétravaillons. Et donc, on a du coup créé cet espace où, effectivement, on donne notre avis, des conseils, nos façons de fonctionner, nos méthodes d'organisation, pour aider toutes les personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain à devoir télétravailler sans avoir aucune idée de comment s'organiser. Donc c'était pour nous un outil qu'on fournissait qui allait permettre à ceux qui le souhaitaient en tout cas de piocher dedans des bonnes conduites, des méthodes, etc.
C'est un mémoire qui est important et parce que ce confinement doit être aussi l'occasion effectivement pour peut-être développer plus le télétravail, mais il faut que les structures qui employeuses aient quand même conscience que c'est un télétravail particulier. On l'a déjà dit sur cette antenne parce que c'est en période de confinement donc émotionnellement et d'un point de vue mental, c'est plus compliqué pour les gens. Et puis aussi, tout simplement, le confinement des enfants. Donc, les personnes qui ont des enfants à la maison, le télétravail, c'est pas forcément évident. Mais donc, il faut tenir compte de ça et en profiter effectivement pour améliorer les procédures et les mécanismes de télétravail dans l'avenir, qui est quand même quelque chose de très bien.
On a aussi, bien sûr, enrichi la documentation sur nos services, puisque plus on a d'utilisateurs et d'utilisatrices de nos services, plus on a des gens qui comprennent pas comment ils fonctionnent. Donc, on a eu une montée aussi en charge de demandes sur notre support. Et donc, pour au mieux renseigner ces utilisateurs et utilisatrices, du coup, on a agrémenté, enrichi la partie de documentation qu'on propose. Donc, par exemple, sur le Mumble Web, puisqu'on n'en avait pas avant, il a fallu écrire intégralement cette documentation de comment on fait pour se rendre sur notre Mumble Web, comment ça marche, comment on rejoint un salon, etc., etc. On l'a fait aussi sur Jitsi, donc sur notre service Framatalk, et on l'a fait aussi sur Rendez-vous Médecin pour que justement les médecins et leurs patients qui souhaitent prendre rendez-vous du coup puissent comprendre comment fonctionnaient ces interfaces.
Et c'est important, ces documentations sont très bien faites, en plus il y a des copies écran, on peut suivre très facilement, et donc c'est vrai que c'est une des grandes qualités qu'a Framasoft aussi, c'est de mettre en place des services, mais également avec la documentation qui va avec, qui permet finalement à la personne qui débarque de pouvoir suivre une documentation et d'utiliser le service.
Et puis pour nous, c'est en plus de ça, c'est aussi quand on a des questions assez basiques qui arrivent du coup via le support, on peut directement faire un lien vers la documentation sans avoir besoin de réécrire et de répondre systématiquement, en réfléchissant. Parfait. En fait, on va chercher directement l'info, donc on gagne aussi du temps par rapport au soutien à nos utilisateurs. Cependant, on a quand même eu énormément effectivement de demandes via notre formulaire de contact, et donc on a créé sur notre forum Framacolibri une catégorie spécifique pour le temps du confinement qui s'appelle Entraide, où on a très clairement appelé à la communauté du coup Frama de pouvoir nous aider aussi à accompagner les internautes quand ils avaient des questions. Donc ça a très très bien pris, les gens du coup posent davantage leurs questions sur le forum, et c'est pas forcément les membres Frama qui répondent à ces questions, ce qui permet voilà de répartir, on va dire, cette tâche d'accompagnement du coup entre un plus grand nombre d'accompagnateurs.
Donc ça, c'est sur framacolibri.org. Et évidemment, les personnes qui veulent aider Framasoft, qui se disent comment on peut aider Framasoft, ben, une façon d'aider, c'est d'accompagner les autres en répondant aux questions.
Tout à fait. Voilà. Et puis enfin, on a été sollicité par plein d'acteurs divers et variés pour mettre en évidence leurs initiatives. Voilà. Alors, c'est parfois des partenaires avec lesquels on est déjà en contact. Parfois, c'est, je pense, par exemple, au collectif Continuité Pédagogique, qui s'est monté de toute façon en 3 jours à partir du moment où il y a eu l'annonce du confinement. On fait des coups de projecteur sur ces initiatives afin de leur donner davantage de visibilité qu'ils ne pourraient en avoir, puisque souvent, ils sont très nouveaux. Donc, ils n'ont pas forcément le réseau. Donc là, on parle de ce qu'ils font, on explique ce qu'ils font, on le fait en partenariat avec eux. Et c'est important. Et on a aussi repris quelques articles qui avaient été publiés sur des blogs externes pour les rendre plus visibles. Je pense par exemple à l'article de Stéphane Bensmeyer sur l'Internet pendant le confinement, qui permettait aussi de repréciser au tout début du confinement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gens pensaient que l'Internet allait craquer, enfin que ça allait lâcher, que ça allait pas tenir. Oui. Voilà. Et Stéphane Bensmeyer, pour le coup, compétence dans ce domaine-là, expliquait en quoi. Cette frayeur pouvait être évacuée, et qu'a priori, et d'ailleurs on le voit bien, 3 semaines plus tard, ça fonctionne toujours, donc tout va bien.
Juste pour dire sur Stéphane Bensmeyer, c'est qu'il a écrit un livre l'an dernier qui s'appelle Cyberstructure, on l'a reçu sur Libre à vous, donc vous trouvez le podcast, et le livre doit être disponible en e-pub sur le site de l'éditeur, donc vous cherchez Cyberstructure, Stéphane Bensmeyer, donc c'est une lecture potentielle pendant le confinement pour mieux comprendre Internet. Je te laisse poursuivre.
Après, on a continué à communiquer sur des projets qui étaient déjà lancés pré-confinement et qui, du coup, arrivaient, en mise en œuvre. Typiquement, le partenariat sur un libre cours, donc et, un cours en ligne sur la culture libre, qui a commencé d'ailleurs hier. On a fait un petit article expliquant ce que c'était que ce cours, comment on pouvait s'y inscrire, etc. Voilà. Bon, les sessions sont pleines, donc. Ce cours se lance et puis on a une vingtaine d'apprenants qui du coup apprennent le monde de la culture libre et des licences libres dans ce cours. Et puis on a fait un petit article sur comment les acteurs du libre se mobilisent dans le cadre justement de la solidarité numérique confinement. Donc on a listé les différentes initiatives qu'on a identifiées, qu'on a vu passer ou qu'on nous a fait connaître dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un article qui du coup marche assez bien parce que c'est vrai qu'on y retrouve plein d'éléments pour tout simplement être plus à l'aise dans cette situation particulière, tout en mettant en valeur les acteurs du libre qui du coup ont fait énormément de choses sur le début du confinement, qui se sont vraiment activés très fortement. On accueille, on continue à accueillir. En parallèle, on fait ce qu'on faisait déjà, mais différentes interviews pour des médias, pour expliquer soit notre positionnement par rapport à ce confinement et en particulier par rapport à l'éducation nationale, mais aussi tout simplement la découverte des outils. Ça, c'est une activité plus, régulière, mais qui a pris un peu plus de place dans notre activité sur ces 3 dernières semaines. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur les 3 dernières semaines. Peut-être pour vous dire, au sein de Frama, pour le coup, le confinement nous touche toutes et toutes, au sein de l'association. Les 2 premières semaines ont été épuisantes, vraiment, parce qu'il y avait énormément de choses à faire. Alors, c'est très dynamisant de se retrouver dans une situation de pression comme ça, où il faut s'activer. Ce qui fait que quand même, au bout de 2 semaines, on a été très, très fatigués. Au moins psychologiquement. Et depuis la semaine dernière, sur les semaines à venir, on a décidé de manière collective que il fallait que on s'épuise pas trop et que ça y est, l'urgence n'était plus une urgence et qu'il fallait qu'on pense à sortir de cette urgence, donc repenser effectivement ce qu'on allait faire dans les semaines à venir. Avec du coup un souci vraiment très très fort au sein de l'association du bien-être des membres. On prend très très souvent des nouvelles les uns des autres. On se questionne sur comment on vit ces situations. On s'assure qu'il n'y ait voilà, pas de membres qui se retrouvent dans des situations délicates. Enfin, on essaye au maximum, en tout cas, d'accompagner voilà, celles et ceux parmi nous qui, du coup, ont voilà, des situations de vie qui sont plus complexes ou tout simplement qui vivent moins bien ou qui angoissent plus. Donc ça, c'est aussi un élément très, très propre à l'association Framasoft, c'est voilà, cette espèce de bienveillance, sachant que voilà, on a toujours dit qu'on était une association basée sur l'humain. Et que ce qui nous importe davantage, c'est les humains qui composent l'association. Il faut que ces humains soient bien.
Je partage tout à fait ça. Effectivement, pour nous aussi, c'est l'humain, c'est le principal. Et les outils comme Mumble, par exemple, ou Jitsi, ou d'autres outils, permettent de garder ce contact visuel, donc notamment, puis audio aussi. Et on peut faire ça tous les jours, ou une fois par semaine, par exemple, faire un point, prendre une nouvelle, etc. Donc, c'est vraiment très important. Alors, Angie, le temps file. On vient de parler justement des humains. Si on parlait un petit peu des adorables petites bêtes qu'on appelle les chatons, du côté des chatons, où ça en est?
Alors, le collectif donc des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, lui aussi a réagi au quart de tour au moment de l'annonce du confinement, avec une différence notable, c'est que à Frama, on est une seule structure et en plus avec des salariés, donc on peut aller assez vite finalement dans les éléments. Au sein du collectif, c'est 70 structures différentes, dont la majorité n'ont pas forcément des salariés. Donc, on va dire que la mise en œuvre de solutions a été un peu plus lente, forcément, du fait qu'il n'y avait pas du tout la même quantité d'énergie. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé du côté des chatons? C'est qu'on s'est rendu compte que les gens étaient hyper perdus en termes d'outils. Dès le début, en fait, ils ne savaient pas du tout quels outils utiliser. Donc, on a enrichi ce qu'on appelle notre litière, parce que du coup, toute une métaphore autour du monde des chats, hein. Donc qui est en fait un wiki tout simplement du collectif. Et donc au sein de cette litière, on a créé une nouvelle catégorie qui sont les outils du télétravail, où en fait pour chaque outil, chaque logiciel qui sont chaque logiciel libre du coup possible, on a fait des fiches qui présentent les fonctionnalités de l'outil, on a recensé des tutoriels d'utilisation, des tutoriels d'installation pour les personnes qui techniquement seraient en mesure d'installer et de configurer justement ces outils sur leur serveur. Et puis une liste d'instances publiques identifiées. Voilà. Au tout début, je me souviens, tout le monde me disait « Oui, mais alors Jitsi, du coup, je vais où pour retrouver Jitsi ?» Voilà. Donc là, on a répondu vraiment à ce besoin très, très rapidement en essayant d'identifier du coup un maximum d'instances. Donc on l'a fait sur plein de logiciels, voilà, Jitsi, Mumble, Mattermost, RocketChat, enfin… Voilà, il y a une liste assez importante du coup sur la litière qui est vraiment de la documentation et de l'accompagnement des internautes dans la découverte de ces outils. Et en parallèle, on a travaillé sur un nouveau site qui s'appelle entraide.chaton.org, donc chaton au pluriel, qui est en fait un portail d'accès simplifié à des services en ligne sans inscription et qui répondent aux besoins les plus courants des internautes. L'intérêt de ce site web, c'est que du coup, on a une interface simplifiée qui permet très très vite d'accéder voilà, à ces outils sans se poser la question de chez qui je vais pour trouver l'outil, sachant qu'en fait, on a un système de à chaque fois que vous vous connectez, vous n'allez pas avoir les outils chez les mêmes opérateurs, chez les mêmes hébergeurs. On a pris du coup parmi les chatons tous ceux qui proposaient, voilà, un service logiciel et ça tourne pour que la charge soit répartie entre l'ensemble des structures qui composent Chaton et que ça ne surcharge pas l'un d'entre nous plutôt qu'un autre.
Ouais, pour qu'en fait la charge repose sur le collectif des différents sites d'hébergement.
Exactement.
D'accord. Donc ouais, c'est entraide.chaton.org avec chaton au pluriel.
Au pluriel, exactement. Et donc ce site, créer un site web rapidement, c'est beaucoup d'énergie. Donc voilà, il y a un petit groupe de travail qui s'est monté du coup pour arriver à faire ça dans des délais du coup très très rapides. Donc ça, c'était la plus grosse partie du collectif. Bien sûr, on a un forum au sein du collectif Chaton qui est un forum public, hein, donc sur lequel les échanges sont visibles auprès de tous. Et donc on a aussi une arrivée, voilà, de plein de gens sur notre forum qui viennent nous poser des questions. Donc, on a toute cette alimentation du forum pour répondre voilà, aux différentes questions qu'on nous pose. Donc, ça, c'est super parce que du coup, ça dynamise énormément le collectif dans son ensemble.
Super. Donc là, c'est l'actualité en 2-3 minutes maximum. Et demain, est-ce qu'il y a des projets, des visions
Côté Frama, la question aujourd'hui, et, voilà, on ne l'a pas vraiment réglée, mais... La question qu'on se pose, c'est qu'on a on avait identifié une feuille de route pour 2020 qu'on avait publiée du coup en novembre dernier, et on se rend bien compte que cette feuille de route, on va pas pouvoir la tenir, puisque voilà, là on a fait autre chose ces trois dernières semaines, et on va sûrement faire autre chose que cette feuille de route encore dans les semaines à venir. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur comment on va pouvoir faire certaines parties de ce qu'on avait annoncé. Comment on gère le fait qu'on va peut-être pas réaliser sur cette année du coup une autre partie de cette feuille de route. Typiquement, on avait annoncé qu'on allait faire une collecte pour financer la V3 du logiciel Peertube. Et très clairement, le contexte fait que quand même, on ne va pas être en mesure de faire ça. Puisque en plus, cette collecte, on l'avait prévue du coup de début mai jusqu'à fin juin. Donc là, on n'est pas du tout prêt pour arriver à faire ça dans les temps. Donc on est en train d'essayer de voir comment on va pouvoir changer du coup la forme de cette collecte. Voilà, on sera plus du tout sur un crowdfunding habituel. Voilà, c'est pas défini encore. On est encore dans le questionnement sur comment on va améliorer ça. En revanche, ce qui va sortir a priori courant mai, qui était déjà prévu courant mai, c'est que on avait lancé un questionnaire pour recenser les acteurs, les actrices de l'accompagnement numérique libre. Et donc ça, on est en train de faire le travail de synthèse pour justement pouvoir sortir tout simplement la liste de ces différents acteurs, parce qu'on se rend bien compte aussi aujourd'hui que cette liste, elle manque en fait sur l'aspect médiation numérique. On a vraiment besoin que ce travail sorte, donc il devrait arriver du coup dans les semaines à venir. On va maintenir ce qu'on avait annoncé en septembre sur la fermeture de services. On avait annoncé qu'on allait fermer un certain nombre de services. Donc ça va continuer à se faire. Et donc, en parallèle, on continue à travailler sur ce qu'on appelle les pages alternatives. Quand un service ferme, en fait, on a une page qui indique OK, le service ferme chez nous, mais on ne vous laisse pas tout seul dans la mouise. On vous propose, du coup, d'aller voir à tel ou tel ou tel endroit pour avoir un service équivalent.
D'accord.
Voilà, donc ça, il y a un travail de préparation, effectivement, de toutes ces pages. Voilà. Et puis là, on se rend compte depuis le début de la semaine, ça y est, que nos deux développeurs, donc Chocobos sur Peertube et Tessit sur Mobilizon, sont un peu moins mobilisés sur le maintien des services existants. Et donc, vous pouvoir recommencer, on va dire, leur activité habituelle qui est de coder, programmer, du coup, c'est développer ces logiciels. Tout simplement, donc ça va revenir petit à petit, sûrement pas autant qu'en contexte plus normal, mais ils vont pouvoir remettre le nez dedans un peu plus pour continuer à avancer du coup sur ce développement. Voilà. Et enfin, on avait annoncé un projet de cloud. Voilà. Là, aujourd'hui, on ne sait vraiment pas si on va être capable du coup de le fournir d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on en est vraiment au stade de la réflexion. On est dans une phase là depuis quelques jours qui est comment on va faire, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, c'est pas hyper défini. On est encore beaucoup dans cette réflexion là, et je pense qu'on prend le temps justement de réfléchir avant de repartir billes en tête, du coup, en essayant de faire exactement ce qu'on avait annoncé alors que le contexte a changé.
D'accord. Voilà. En tout cas, ça nous donnera l'occasion de prendre des nouvelles. Je vais juste préciser, on a parlé de Peertube, c'est un service de partage de vidéos décentralisé, on peut dire, et Mobilizon, c'est un outil pour permettre aux organisations de s'organiser, de se mobiliser, partager des événements. C'est ça.
Ouais, souvent on le présente comme l'alternative aux événements et aux groupes sur Facebook.
D'accord. Ok.
Voilà.
Bon, écoute, en tout cas, on va reprendre des nouvelles bientôt. On te souhaite le meilleur, ainsi qu'à tous tes collègues et tous les membres de Framasoft, et puis merci pour ce que vous faites. Voilà, tu leur fais des bises virtuelles de notre part, avec grand plaisir. Donc c'était Angie Gaudion de Framasoft. Tous les liens qu'elle a cités, vous les retrouverez sur les références, évidemment sur framasoft.org et sur chaton avec un s.org, et également sur le site de la radio causecommune.fm et sur le site de l'April, april.org, dans les pages consacrées à l'émission. Angie, je te remercie, puis je te souhaite de passer une belle fin de journée ensoleillée. Donc
merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. À très bientôt.
À bientôt, Angie. Cher maestro William, nous allons passer une pause musicale. Nous allons écouter Cool Nights par Dizzy et on se retrouve juste après.
Cause commune. What's around the next corner? So.
Nous venons d'écouter Cool Nights par Didzy, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis toujours Fred Couchet, le délégué général de l'April, et nous prenons des nouvelles de personnes avec qui nous avons déjà échangé dans le cadre de l'émission. Et donc maintenant, nous allons parler avec Laurent Joetz, qui est donc professeur de technologie en collège, référent numérique de l'établissement et qui avait participé à l'émission Libre à vous consacrée au logiciel libre et le monde éducatif, le collège, émission du 4 février 2019, disponible donc sur causecommune.fm et sur april.org, les podcasts. Donc Laurent, tu es avec nous ?
Bah oui, bonjour.
Bonjour Laurent, je rappelle aux personnes qui veulent participer à notre conversation, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, dièse, libre à vous. Déjà Laurent, comment ça va ?
Ça va bien, ça a été une période un peu compliquée en tant que référent du numérique de l'établissement, après comme tous les enseignants aussi pour préparer les cours et puis prendre en charge les élèves à distance, c'est pas simple, hein. C'est assez fatigant, mais super riche en fait.
D'accord, alors justement, on va en parler un petit peu, de ce retour d'expérience, parce qu'effectivement, on avait Engie de Framasoft qui nous parlait un petit peu de comment ils avaient vécu ça de leur côté, donc il était intéressant d'avoir aussi un retour d'expérience côté enseignement. Et le premier point que tu souhaitais aborder, c'est l'importance des outils décentralisés déjà en place.
En fait, dans notre établissement, nous, cette histoire de chaton dont on entend parler depuis longtemps avec Framasoft, et puis cette demande qu'on a vue apparaître de Framasoft qui dit « vous êtes gentil, vous avez bien testé nos outils, mais maintenant, faut vous débrouiller tout seul sans nous », ça fait un petit moment déjà que dans mon établissement, on l'a mis en place. Alors, j'ai pas fait ça tout seul, hein, et puis j'ai bien conscience que je suis pas un établissement qui est forcément représentatif de tous les établissements de France, mais donc on est une communauté de libristes qui avons mis en place ça dans nos établissements déjà depuis un moment, notamment en utilisant des serveurs pédagogiques Samba Edu qui sont associés à des serveurs Nextcloud qui permettent aux élèves d'accéder de chez eux au partage du réseau, même déjà, on le faisait déjà en temps normal, ça fait plusieurs années, donc en fait ce type d'usage-là, accéder de chez soi aux documents qui sont stockés au lycée, nos élèves, ils savaient faire. Donc, on a du coup pour cette partie-là été assez indépendant, notamment de Framasoft. Et puis, comme on l'a vu aussi, les ENT, les espaces numériques de travail qui sont mis à notre disposition par les conseils généraux, les conseils régionaux, etc. Département pour les collèges, région pour les lycées. On a bien vu que pour tenir le choc face à l'afflux de connexion des premiers jours de confinement, il a fallu qu'on se débrouille sans quoi. Et on était bien content d'avoir notre Nextcloud à nous.
Alors Nextcloud, on en a parlé dans une émission de Libre à vous il y a quelques semaines, hein, je renvoie sur le site de la radio, sur le site de l'April, hein. C'est un service, un logiciel libre qui permet de mettre en place un service de partage de fichiers, d'agenda, de photos, d'outils collaboratifs, donc voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et donc là, ce que tu dis, en fait, quelque part, et tu as précisé que tu n'es pas forcément représentatif de l'ensemble des établissements, c'est que vous étiez, entre guillemets, prêt, parce que vous aviez déjà des outils qui vous permettaient de travailler finalement à distance et d'avoir un accès décentralisé quelque part à vos outils pour vous en tant qu'enseignant et pour vos élèves, c'est ça ?
Exactement, c'est ça. Et donc on savait qu'on avait déjà ça en place, donc on n'était pas obligé d'avoir besoin de se connecter à l'ENT pour faire du partage de documents. Et puis dès le vendredi soir où on a appris qu'on allait être confiné, qu'on retournerait pas dans les établissements, on a très très vite réfléchi avec d'autres collègues et d'autres établissements aux alentours comment on allait pouvoir mettre en place un moyen de communiquer avec les élèves pour faire cours, faire de la visio, hein, en quelque sorte. Donc on connaissait Jitsi, on avait bien conscience que si on allait tous taper dans Framatalk, ça marcherait pas. Et donc on a cherché des alternatives. Alors notre ENT en Île-de-France, nous, était en train de mettre en place aussi dans l'urgence un outil qui s'appelle Big Blue Button, intégré à l'ENT, mais on était conscient aussi que la connexion à l'ENT, elle serait compliquée les premiers jours. Donc on s'est dit pourquoi on prendrait pas nous en charge l'installation de ce logiciel libre Big Blue Button et le mettre sur notre infra d'établissement. Donc je répète que je suis pas forcément représentatif, mais dans mon établissement, on a un gros serveur avec des machines virtuelles Proxmox, on a une liaison fibre 50 mégas et on avait un bloc d'IP dont une IP libre, et donc on s'est monté notre serveur de visio à l'établissement, spécifique à l'établissement, en urgence dans le week-end en fait.
Ce que tu appelles IP, c'est ce qui permet de se connecter à un serveur via une adresse en fait.
Voilà, parce que l'installation de Big Blue Button, elle est un petit peu technique si on ne dispose pas d'une IP publique sur Internet. Voilà.
D'accord. Alors, juste avant que tu continues sur Big Blue Button et que tu nous en parles un petit peu, il y a une question sur le salon web. Sur le cloud de ce lycée, y a-t-il eu une grosse augmentation de la consommation pendant le confinement? Et seconde question, comment les utilisateurs et utilisatrices sont-ils connectés sur le cloud?
Alors, pour répondre à la première question, en fait, on s'est amusé à sortir les graphes de la première semaine, et étonnamment, on a donc des courbes avec le flux entrant et le flux sortant, le débit entrant, le débit sortant. Et ce qui est très très rigolo, c'est qu'en fait, les courbes se sont inversées. On n'a pas du tout saturé sur notre lien fibre, mais tout ce qui était en entrée les semaines précédentes est passé en fait à peu près en sortie. En fait, c'est juste symétrique, quoi. C'est vraiment étonnant. Et puis pour répondre à la question comment il s'identifie sur le Nextcloud, ça c'est la force du projet Samba Edu. On a donc un serveur qui gère un annuaire. Et les élèves sont identifiés avec leur identifiant habituel qu'ils utilisent en classe. Et la force de ce projet Samba Edu, c'est aussi de permettre d'avoir le même identifiant que sur l'ENT. La synchro est totale entre le serveur qui est dans l'établissement, l'ENT qu'ils utilisent qui est extérieur, et puis donc tous les outils qu'on va mettre en place à côté, que ce soit le Nextcloud qui permet d'accéder au partage, que ce soit l'outil de visio Big Blue Button, c'est pareil, c'est interfacé sur le LDAP, et puis donc sur l'annuaire, et puis on a une fonctionnalité complètement ahurissante qui vient de sortir il y a quelques jours, c'est la possibilité pour les élèves d'accéder de chez eux dans un navigateur aux machines de l'établissement en RDP, c'est-à-dire qu'en fait ils se connectent sur le serveur Samba Edu, et on a découvert et mis en place un outil qui est maintenu par le projet Apache qui s'appelle Guacamole. Toujours rigolo ces noms-là, ça me fait marrer, et qui permet donc dans un navigateur de voir ce que verrait l'élève sur l'écran de son ordinateur en classe. Et c'est excessivement fluide. On fait tourner des applications comme ceux qui enseignent peut-être en SI connaissent.
Tu as dit SI, ça veut dire quoi?
C'est section d'ingénieur.
Non, SI, section d'ingénieur, d'accord.
Enfin bon, bref, les grands lycéens, on va dire.
D'accord.
Moi, je suis plutôt collège, alors bon. Et donc, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est complètement fluide. C'est bluffant. Et donc le prof, il va diffuser l'écran de son ordi du lycée dans l'outil de visio du lycée aux élèves qui sont chez eux mais qui sont connectés avec les identifiants du lycée ou de l'ENT.
D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est effectivement d'un point de vue usage, mais ça montre aussi l'hyperactivité finalement de ce projet dont tu parles, d'accès serveur, qui est donc Samba Edu. Hein, dont vous trouverez les références. Alors c'est sambaedu.org hein, si vous cherchez sur Internet. Ce projet est vraiment hyperactif parce que finalement, c'était rajouté récemment cette fonctionnalité.
Exactement. Alors, en fait, la force du projet Samba Edu, c'est que c'est fait par des profs pour des profs. Donc on est exactement, on répond exactement aux besoins des enseignants. Et on peut pas faire plus direct que du producteur au consommateur, en fait, enfin du demandeur au codeur. On peut pas faire plus direct. Alors, ça nécessite certes des compétences, tout le monde les a pas, mais tout le monde peut participer, rien qu'en remontant des bugs, en faisant des demandes sur le GitLab, etc. Donc c'est assez disons qu'on j'ai presque envie de dire qu'on va profiter de cette période un petit peu compliquée pour faire connaître toutes les possibilités qui étaient sous-jacentes au projet depuis très longtemps, mais pour lesquelles les différents personnes, les décideurs, n'étaient pas conscients de ce que ça pouvait apporter. Voilà. Et là, c'est là où on voit une force vraiment exceptionnelle de la localisation à la fois des compétences et des infrastructures dans les établissements scolaires. C'est qu'on voit bien, hein, les ENT, ok, on a des très grosses compétences, mais les serveurs sont pas dans les établissements. Donc tout le monde passe par le même tuyau. Là, dans un établissement, on a quoi, aller au maximum 2000 élèves, 2500 élèves. 2500 élèves sur une fibre 100 mégas, c'est rien du tout.
D'accord, c'est intéressant d'avoir effectivement la localisation des serveurs, des compétences et finalement d'être préparé. Je vais juste préciser, parce qu'on nous fait remarquer sur le salon que tu n'es pas forcément représentatif, comme on l'a dit tout à l'heure. Lors de l'émission Antenne Libre qu'on a fait le 19 mars 2020, donc les podcasts sont disponibles sur april.org et sur causecommune.fm, nous avions notamment Vincent-Xavier Jumel, donc, qui lui est enseignant en lycée en Seine-Saint-Denis, dont les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, je renvoie les personnes à l'écoute de cette antenne libre qui avait duré 2 heures, où justement, lui avait expliqué les problèmes qu'il pouvait avoir et comment il faisait en mode confinement. C'était au tout début du confinement. On va revenir sur Big Blue Button pour que tu nous expliques un petit peu à quoi sert cet outil, en fait. Qu'est-ce qu'il a finalement de magique, donc Big Blue Button?
Bah, en fait, c'est un équivalent assez étonnamment ressemblant de l'outil qui est mis en place par le CNED, c'est-à-dire que on fait de la classe virtuelle. Alors c'est comme Jitsi, sauf qu'il y a des fonctionnalités un peu en plus. Ça tient bien la charge quand on est vraiment très nombreux. Hein. On a fait notre AG d'association à 40 dans un salon et ça tient sans problème la charge. Il y a des systèmes de vote, on peut lever la main, etc. On peut définir quelqu'un comme présentateur qui va passer un diaporama, par exemple, que tout le monde va pouvoir visualiser en même temps. On peut partager des vidéos, tout le monde va voir en même temps. Et puis on peut partager un écran une fenêtre de son écran, etc. Et puis on peut donner ces droits-là aussi aux autres utilisateurs. Alors Jitsi, qui sera présenté tout à l'heure, peut sans doute faire beaucoup de ces choses-là. Mais voilà, on est parti sur Big Blue Button et puis ça marche vraiment très bien. On est assez bluffé par les performances. Pour revenir un petit peu sur le commentaire qui a été évoqué juste avant par Vincent-Xavier Jumel, c'est, je crois. Ça, j'en suis très clairement conscient. Hein, nous, dans notre établissement, je suis en plus dans un établissement assez spécifique puisque je suis dans un lycée REA qui accueille des élèves porteurs de handicap moteur pour certains et donc on a énormément d'usages informatiques autant dans l'établissement que les élèves à la maison. Et ça, clairement, c'est pas le cas partout. Et on voit quand même qu'on a quelques élèves avec cette histoire de visio et de confinement, qu'on a perdu. Ceux qui n'ont qu'un smartphone, par exemple, c'est très compliqué. Ceux qui ont un ordinateur à la maison, mais où ils sont 5 gamins plus la maman qui travaille en visio, etc. Eh ben, faut trouver les créneaux et c'est pas toujours possible. Et on en est tout à fait conscient. Ça, c'est un vrai écueil et c'est pour ça aussi que je participe, moi, à titre personnel, à des install parties organisées à la Villette, notamment par l'association de Parinux, hein, qui organise les premiers samedis, et je vois bien que c'est super important aussi de faire...
Tu te rappelles ce qu'est une install party, s'il te plaît?
Une install party, en fait, on vient avec son ordi qui marche plus, puis on part avec un ordinateur qui marche.
Bon, on reçoit de l'aide pour se faire installer un système libre, soit sur l'ordinateur, voilà. Soit sur le téléphone, on va dire.
Voilà, et on voit bien qu'il y a une vraie fracture numérique au niveau familial, en fait. Hein. Il y a des familles avec chaque enfant a son ordi dans sa chambre et il y a des familles, il est partagé où il n'y a même pas d'ordi, quoi.
Et les collègues, tes collègues, ils sont aussi aguerris que toi en termes de paramétrage de salon, tout ça, ou ils ont plus de mal?
La première semaine, même dès le premier week-end de mémoire, hein, on a fait des visios entre profs pour faire de la formation à la visio. Alors c'est assez rigolo parce que quand on fait ça, on a l'écran qui se remplit à l'infini. Mais voilà, je les ai formés assez rapidement. C'est quelque chose que le référent numérique en établissement, il a l'habitude de faire. En général, on fait ça après 16h30 dans une salle quand tous les élèves sont partis. Puis on a 2-3 collègues qui sont intéressés par le sujet. Et puis les autres, ils ont leur vie à côté. Et on comprend très bien qu'ils viennent pas forcément. En travail à distance et avec le besoin qui se faisait sentir, on était excessivement nombreux. Après, tout le monde est clairement pas au même niveau d'aisance avec l'outil, c'est tout à fait compréhensible et on peut pas exiger non plus à un enseignant qui a des enfants en bas âge de se connecter à heure fixe pour faire de la visio avec ses élèves depuis son domicile. C'est pas possible. Il y a des cas où on peut pas. Ça, c'est clair.
Oui, et en plus, je crois que tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais l'expérience montre que la visio, c'est quand même épuisant aussi. Il y a un côté quand même qui est, de point de vue cognitif, qui est beaucoup plus fatigant en fait qu'avec des cours en présentiel classique.
Bah ouais, c'est épuisant parce que tenir une classe. Hein, après, tout dépend de la classe, hein, des élèves. Ça dépend aussi de comment on est prof. Hein, on est tous différents par rapport à ça, mais on fait pas la discipline de la même manière. Et puis le regard au gamin qui est peut-être un peu déconcentré, des fois ça le recadre tout de suite. Voilà, c'est des choses qui s'expliquent pas forcément, qu'on acquiert avec l'expérience. Et puis c'est complètement différent en visio, ça c'est très clair. Hein, alors il faut relancer très très régulièrement à l'oral déjà, hein, parce que on met pas forcément la webcam. Au début ils mettaient leur webcam les élèves un petit peu. Et puis au fur et à mesure que la période avance, on sent qu'ils sont en pyjama en fait le matin. Donc ils mettent plus la webcam. Voilà. Puis moi, par contre, je m'arrange aussi toujours pour la mettre pour qu'ils me voient. Je pense que c'est important
Oui.
de garder un contact. Et puis quelque chose de rigolo aussi, c'est qu'à la fin de mes cours en visio, je leur laisse toujours 5 minutes. Je laisse le salon ouvert. Moi, je coupe mon micro, je coupe ma caméra. Et puis entre eux, ils échangent. C'est important aussi ces
Ah
moments-là.
oui, tu les laisses entre eux, ça c'est bien ça.
Ouais. À tel point que notre CPE, elle va essayer de mettre en place d'ici, bah, pour la rentrée, parce que là, en région parisienne, on est en vacances scolaires. Donc dans 15 jours, on va essayer de faire des récréations en visio qui sont avec un adulte hein, présent dans le salon CPE ou un surveillant et puis permettre aux élèves de s'échanger un peu surtout en essayant qu'ils évitent les Discord, WhatsApp, etc. dans la mesure du possible quoi. Et ça c'est un vrai plus hein, qu'on a avec Samba Edu, c'est que les élèves ils sont identifiés forcément hein, en passant par un serveur de visio qui est lié au compte ENT alors que bah, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans l'outil du CNED, bah, il suffit
Bah.
d'aller lire un petit peu.
Alors justement, je peux pas te couper parce que je sais pas, tu dois être sur le salon en même temps parce qu'il y a
Alors
sur le
non,
salon
j'ai
web,
pas le salon en même temps, non.
et ben, il y a quelqu'un qui pose la question sur le salon web. Y a-t-il eu des intrusions dans la solution de visio utilisée par Laurent, donc qui est BigBlueButton, comme on en a entendu parler pour la solution du CLED, qui est BBCollab? Donc c'est ce que tu es en train de parler en fait.
Exactement. Alors, BBCollab, en fait, le prof, il va générer un lien pour sa classe et puis il va la diffuser par tout moyen possible. Alors, ça peut être par mail perso, ça peut être sur un groupe WhatsApp, j'en sais rien, en fonction de comment il communique avec ses élèves, puisqu'on a tous été contraints de faire des trucs pas franchement RGPD compliantes au début, hein, notamment l'extraction des adresses mail des élèves depuis l'ENT pour pouvoir prendre contact avec eux puisque le NT marchait pas. Donc voilà. Et après, bah, n'importe quel gamin va poster ce lien sur Twitter ou sur n'importe quel réseau ouvert et n'importe qui peut rentrer dans le salon. Alors j'ai, à ma connaissance, hein, BBCollab va mettre en place très très rapidement un système de salle d'attente où en fait le prof pourra aller piocher ses élèves dans la salle d'attente pour les mettre dans la classe, que n'importe qui puisse pas s'introduire. Ben nous, on n'a pas ça avec l'outil de visio BigBlueButton parce que justement, il est interfacé avec le LDAP, en fait, avec l'annuaire de
Avec
notre
l'annuaire.
serveur.
D'accord. Bah écoute, c'est super. Alors, le temps file et je vois que Émile Leivov nous a rejoint également sur le Jitsi. En dernière question, j'ai une question de Marie-Odile qui me disait, donc la presse locale a montré des enseignants de technologie de collège fabriquant des pièces avec des imprimantes 3D pour les objets sanitaires utilisés actuellement. Et elle dit, n'est-ce pas là une belle reconnaissance de la discipline, donc la technologie, de la fabrication qui doit s'y pratiquer? Et elle pose la question, est-ce que les décideurs politiques comprendront un jour la nécessité de cette discipline, travail en groupe, matériel? Est-ce que tu es optimiste de ce point de vue-là?
Alors oui, moi je suis assez optimiste. Je suis un peu embêté parce que j'adorerais le faire. J'ai 2 imprimantes au lycée, mais mon établissement est fermé. En plus, j'habite assez loin de mon établissement. Je serais à côté, j'y serais, surtout que j'ai du stock de filaments, etc. J'ai vu tout ça passer. Mon problème, c'est le temps. En tout cas, mais c'est clair que si moi j'aurais adoré participer à ça, j'ai moi des copains hein, qui, notamment au Fab Lab de Mulhouse, qui se sont lancés dans des productions de masques assez industriels au Fab Lab. Je sais pas combien ils ont récupéré d'imprimantes et ils impriment des trucs de fou. Ouais, je pense que de toute façon, on est face là, on est face à une situation tellement tellement inhabituelle que bah, on va voir plein plein d'initiatives comme ça qui, j'espère, vont faire réfléchir un petit peu les politiques. Hein, moi, je vais revenir un petit peu prêcher pour ma chapelle, mais ce qu'on arrive à faire avec le projet Samba Edu, on sait nous qu'on sait le faire depuis très longtemps, mais les politiques n'avaient pas encore compris la puissance de l'outil.
Bah écoute, comme dirait Marie-Odile, Laurent Jouët, ministre de l'Éducation, pour mettre en place, généraliser ça,
Non, moi
sans doute.
j'aime bien rester un petit peu dans l'ombre.
T'aimes bien faire des choses utiles.
C'est ça.
Bon, on va arrêter de troller là-dessus. En tout cas, je te remercie grandement. Et puis, n'hésite pas si tu as besoin, si tu as envie de refaire un retour d'expérience plus tard, n'hésite pas. Alors, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Laurent est dans un cas un peu particulier, comme il l'a expliqué. Je renvoie aussi donc à l'antenne libre du 19 mars 2020 pour un retour d'expérience dans d'autres conditions, notamment bah, à un lycée de Seine-Saint-Denis, que je connais bien vu que je suis en Seine-Saint-Denis, donc avec notamment Vincent-Xavier Jumel.
Alors, Vincent-Xavier, je crois que j'échange avec lui régulièrement sur Mastodon.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là, il n'est pas là. Il était dans l'antenne libre, en fait. C'est pas ça. Voilà. Donc, en tout cas, c'était Laurent Joetz, donc professeur de technologie en collège, référent numérique de l'établissement et qui était notamment intervenu dans l'émission Libre à vous, donc consacrée au logiciel libre et le monde éducatif, et notamment le collège, le 4 février 2020, donc podcast sur april.org et sur causecommune.fm. Mais écoute, Laurent, je te souhaite de passer une belle fin de journée.
Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup aussi pour la visibilité qu'on peut donner à un projet comme Samba Edu dans ce type d'émission.
Ben merci Laurent, à bientôt.
À bientôt.
Alors William, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Moon par Lemino et on se retrouve juste après.
Cause commune 93.1. We'll be right back.
Nous venons d'écouter Moon par Les Minots, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc, visiblement, mon micro était allumé pendant la pause musicale, donc vous avez peut-être entendu l'un de mes enfants me poser une question. Elle demandait qui était la personne à l'écran. Et bien, la personne à l'écran, je peux lui répondre. En fait, c'est Émile Ivov qui vient de nous
rejoindre.
Bonjour Émile. Alors, Émile Ivov, on a le grand plaisir d'avoir donc le créateur de Jitsi, qui est une solution libre, notamment de messagerie instantanée et de visioconférence. Donc, bonjour Émile.
Bonjour, enchanté, merci pour l'invitation. Le plaisir est pour moi.
Eh ben écoute, c'est super. Donc, on a parlé juste avant donc avec Laurent Joette d'un autre outil qui s'appelle Big Blue Button, mais Jitsi est un outil très utilisé et de plus en plus utilisé depuis le début du confinement. Alors déjà, l'idée c'est un petit peu d'avoir une présentation un peu de Jitsi et puis de ses fonctionnalités et des projets d'avenir. Déjà, première question, une petite présentation personnelle rapide. Qui es-tu, Émilie?
Ah, je suis Émile. Merci pour l'invitation encore une fois. En ce qui est de présentation personnelle, je suis né en Bulgarie. Je suis arrivé en France quand j'avais 21 ans, en 2001. C'était un programme Erasmus. Je suis tombé très vite sous le charme. J'aime la France. J'ai fini par devenir français. Et puis, ça s'est très, très bien passé par la suite. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis. Et je continue toujours de travailler sur Jitsi depuis bientôt 17 ans.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant, avant de parler donc de Jitsi, des fonctionnalités, c'est qu'en fait, le projet Jitsi, moi je ne savais pas du tout, a commencé donc en France, à Strasbourg, dans le cadre de ta thèse de doctorat. Donc, c'est toi qui as démarré ce projet donc, quand tu étais étudiant en France.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça a commencé même un peu plus tôt. C'était au début des IPv6. Je suis allé chez mon, à l'époque, directeur de stage et par la suite directeur de thèse, c'était Manuel à l'Université de Strasbourg. Et je dis, j'ai envie de faire un téléphone sur IP. Il a dit, ça tombe bien, on en a besoin un qui marche sur IPv6. Et c'est comme ça que le projet est né. Ensuite, on a continué à le développer. On a utilisé beaucoup comme outil de validation pour ma thèse qui était dans les communications en temps réel. Ensuite, on a créé, puisque c'est, enfin, la communauté a pris de vitesse, le projet a fini par être assez conséquent. Donc, avec mon partenaire Yana Stamcheva, on a créé une entreprise autour du projet pour fournir des services de consultation et de développement à la demande. Et puis, ça a duré quelques années. On a augmenté l'équipe, on a rajouté les fonctionnalités de visioconférence. Le projet a morphé. Il est passé il était au début un messenger, un peu comme une combinaison de Ikigai et de, enfin c'est non, hein, ça rappelle des souvenirs de Ikigai, oui, et de Pidgin, ouais.
De la messagerie instantanée à la fois audio et textuelle.
Exactement. Et par la suite, on a vraiment mis l'accent sur le côté audio-visio-conférence. On a pris le cœur de Jitsi, on l'a mis dans le réseau, et c'est devenu le Jitsi Video Bridge avec toutes les composantes autour, et ça a donné Jitsi Meet. Par contre, il y a toujours des lignes de code, pas beaucoup, mais il en reste toujours des lignes de code qui ont été faites en 2003, donc c'est quand même le même ADN.
D'accord. Alors, j'ai une question sur le salon web là, de la radio. Je rappelle sur causecommune.fm, bouton chat, si vous voulez nous rejoindre, les personnes qui écoutent l'émission. Ce que dont tu nous parles là, c'était, tout ça, c'était en France ou il y a une partie qui était après quand tu as migré aux États-Unis?
Jusqu'à là, tout ce que j'ai dit, ça s'est passé en France, ouais.
D'accord, ok. Alors, donc, c'est intéressant de savoir ça parce que je pense que pour beaucoup de gens, Jitsi, c'est un produit, c'est un logiciel qui était principalement fait aux États-Unis. Alors, en fait, ça vient de quelque chose qui a été en France, donc l'Université de Strasbourg.
Ça a démarré à l'Université de Strasbourg et ensuite ça a continué assez pas mal de temps dans cette forme d'entreprise de service, de start-up, petite start-up qu'on a monté autour. Donc pour 5-6 ans, on a fait ça. Et on a fini par se faire racheter par Atlassian, ce qui a complètement préservé l'aspect open source du projet. À un moment, Atlassian a décidé de sortir de l'industrie des communications en temps réel. Donc, on a été racheté à ce moment-là par 8x8, on a eu beaucoup de chance, parce qu'ils ont été encore plus dévoués à l'aspect open source. Ils font beaucoup vraiment pour soutenir la communauté, surtout dans ces temps difficiles là où ils récupèrent l'addition pour Meet Jitsi. il y a pratiquement toutes les personnes qui bossaient à l'époque pour le projet qui sont toujours dedans. Et sauf que aujourd'hui, la boîte qui paye les salaires, c'est 8x8 et ce n'est plus la petite start-up de l'époque.
D'accord. Alors ça, c'est intéressant d'aborder ce point-là. Je voulais l'aborder un peu plus tard, mais on va le faire maintenant. Donc, pour bien comprendre finalement, donc le projet a démarré en France il y a quelques années, principalement par toi et puis un de tes collègues. Et aujourd'hui, donc, tu travailles pour une société donc qui s'appelle 8x8 et qui continue en fait à développer et à payer des gens pour développer Jitsi, toujours dans un modèle logiciel libre.
Absolument. Ouais. Absolument, c'est tout ce qu'on développe. Enfin, dès que ça a du sens, ça part d'abord sur le projet open source. On récupère les paquets des biens du projet open source comme tout le monde. Ouais. On en rajoute des customisations qui sont nécessaires pour les déploiements de 8x8. Ouais.
D'accord, ok. Alors ça c'est intéressant parce que ça, voilà, c'est un projet qui démarre finalement d'un projet de thèse et puis qui aujourd'hui, il y a combien de personnes d'ailleurs qui développent sur le projet Jitsi aujourd'hui?
Oh, ça dépend beaucoup de la définition. Hein. Enfin, si on prend la liste des contributeurs sur GitHub, on est dans les centaines. Ceux qui sont à plein temps dessus, on va dire que c'est une trentaine.
D'accord. C'est quand même un projet assez important. Alors, quelles sont les principales fonctionnalités, mais si tu as commencé à en parler, de Jitsi, et pourquoi est-ce aujourd'hui les gens utilisent Jitsi plutôt que d'autres en fait, solutions?
Ouais, en fait c'est un outil de rendez-vous de visioconférence. C'est important, c'est pas un outil téléphonique. D'accord, on peut pas s'appeler avec. On est censé se mettre d'accord d'abord sur un point de rendez-vous et on s'y retrouve. Donc c'est un outil de meeting, pour dire ça plus couramment. J'ai fait un blanc là. c'était quoi la deuxième partie de la question? Excuse-moi.
Bah, c'est quelles sont les principales fonctionnalités et pourquoi finalement les gens aujourd'hui utiliseraient Jitsi plutôt que d'ailleurs d'autres solutions telles que par exemple, on va citer des solutions privatrices comme Zoom ou autre.
Ouais, donc parmi les principales fonctionnalités, on va trouver vraiment enfin l'essentiel de ce dont on a besoin pour avoir des rendez-vous de travail. Ça, c'est quand même un outil qui est ciblé sur le monde professionnel. Donc on peut partager son écran, on peut échanger des messages, on peut lever la main, on peut partager des vidéos, on peut partager le son. Enfin, je veux dire, c'est ça se veut dans sa forme Jitsi, ça se veut un médium de communication. Donc, pour qu'on puisse remplacer le médium physique par un médium à distance. Après, c'est pas vraiment, enfin, les fonctionnalités qui démarquent des autres, même si, ben, enfin, je veux dire, on peut partir dans les détails. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui aujourd'hui fait vraiment la différence, c'est deux choses principales. C'est il y a la facilité d'utilisation. On a beaucoup travaillé sur la friction d'utilisateur. On s'est vraiment assuré qu'on peut très vite rentrer dans un salon, très vite créer un salon. Donc ça c'est important. Et ce qui est vraiment encore plus important dans ce domaine-là, c'est que en travaillant sur la friction, on s'est aussi assuré qu'on peut utiliser cet outil de façon complètement anonyme. On l'a fait principalement, enfin, à moitié dans un souci d'usabilité, d'ergonomie, mais aussi dans un souci de respect de vie privée, ce qui a toujours été au centre de projet Jitsi depuis ses premiers jours. Hein. Donc, ce respect de la vie privée et de la sécurité se montre de plusieurs façons. La possibilité d'utiliser de façon complètement anonyme en est une. Après, on a aussi ce qui le démarque vraiment et ce qui le rend parfaitement unique, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des conversations hautement confidentielles, très privées, vous pouvez installer votre propre serveur Jitsi en 15 minutes. On travaille beaucoup pour s'assurer que ça soit le cas. On a des containers Docker, on a des paquets Debian. Ça prend vraiment 15 minutes de monter sa propre machine, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes dans la sécurité parfaite puisque toutes les données qui partent sur le réseau sont chiffrées. Et à partir du moment où vous faites confiance au serveur, vous êtes protégé de tout ce qui pourrait...
Oui, des problèmes de fuite de données personnelles ou autres qu'il peut y avoir, par exemple.
Même au-delà, juste l'écoute.
Juste l'écoute, oui.
Ouais, voilà. Donc, vous avez des personnalités comme Edward Snowden, par exemple, qui utilise sa propre instance Jitsi Meet. Il donne souvent ses rendez-vous dessus. France Inter, en septembre dernier, il a utilisé Jitsi. Vous avez la Freedom of Press Foundation qui recommande aux journalistes de faire de même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à Jitsi.
D'accord. Et je confirme, pour avoir installé une instance Jitsi sur un serveur Debian, donc Debian, c'est un système d'exploitation libre, que c'est vrai que ça prend une quinzaine de minutes. C'est très simple à installer, qu'ensuite, en termes d'usage, c'est facile à utiliser. Sur le salon, j'ai une question. Mais c'est clair, enfin, franchement, c'est très simple à installer. J'ai une question, justement. Est-ce que Emile peut expliquer la différence entre Jitsi et Jitsi Meet? Est-ce qu'il y a une différence?
Ah ouais, on est très fort en hommage. Hein, ça, les gens qui sont intéressés au projet ont dû se dire, hein, mais qu'est-ce qu'ils ont bu, ces gens-là? Donc Jitsi, on va dire que c'est le nom du projet, d'accord? Il y a plusieurs petites composantes, de plusieurs petits produits. Enfin, le nom de la communauté, c'est Jitsi. Ensuite, Jitsi Meet, si on doit être complètement correct, c'est ce qu'on utilise là en ce moment-là. C'est le JavaScript que vous chargez dans votre browser. C'est aussi un projet open source qui est une des composantes de l'écosystème Jitsi. Donc, quand vous installez votre propre instance, on va dire, vous avez installé Jitsi Meet, même si techniquement, derrière, il y a aussi Jitsi Video Bridge, il y a Jikofo, il y a Jigasi, je vous ai dit, on est très fort en hommage. Donc, Jitsi Meet, c'est ce projet-là. Après, souvent, quand on parle de Jitsi, il y a aussi l'instance qui est le déploiement de référence, qui est censé faire la démonstration de toutes les fonctionnalités, tout ce qui est possible avec Jitsi. On parle là de meet.jit.ci. Donc ça, c'est une instance de Jitsi Meet qui est maintenue par l'équipe 8x8. Encore une fois, normalement, c'était dans le but de faire une démonstration de tout ce qui est supporté par le projet Jitsi. Aujourd'hui, c'est aussi dans le but d'aider un petit peu par ces temps difficiles, pour permettre aux gens de se retrouver plus facilement.
Alors d'ailleurs, on va préciser que c'est l'instance qu'on utilise pour diffuser l'émission du jour. Hein. On diffuse l'émission via Jitsi. Et donc, William ensuite diffuse sur le serveur de la radio et puis après, ça passe en FM. Alors justement, tu parles de la situation actuelle. Alors je suppose qu'avec le confinement, il y a eu une augmentation de l'utilisation de Jitsi. Donc, à la fois peut-être les téléchargements de l'outil pour installer des instances, mais aussi l'usage donc de l'instance principale, entre guillemets, qui est meet.jit.si. Est-ce que tu as des statistiques de cette partie-là, et avec peut-être une séparation entre Europe et États-Unis ou dans le monde? Est-ce qu'il y a des statistiques?
Ouais. Donc, on va le trafic sur Midjiti a augmenté à peu près la charge a augmenté à peu près de entre 50 et 100 fois, selon si on regarde la bande passante, les participants simultanés ou les participants en total. Ça a été monstrueux. On est passé, enfin, à l'époque, on avait partout dans le monde, on va dire, une cinquantaine de serveurs. Aujourd'hui, on frôle les 4000. Donc, ça a été extrêmement conséquent. Ça a eu des effets très positifs sur le projet lui-même, puisqu'on a révélé pas mal de bottlenecks dans les différents projets de Jitsi. Et il y a plein de choses qui ont été corrigées. Il y a plein de choses qui ont été corrigées dans l'infrastructure pour qu'aujourd'hui on puisse avoir une mise à l'échelle très très rapide, très automatique. Mais on va dire qu'il y a eu plusieurs nuits blanches avec plusieurs alarmes qui se déclenchent dans la nuit. Il y a Paris qui est tombé. C'est que c'était comme la guerre. Hein, c'est... mais depuis une bonne dizaine de jours, on va dire qu'on a réussi à mettre tout. Enfin, tout est très très stable et les gens peuvent communiquer. Après, sur les téléchargements et les instances que les gens installent, on a vraiment presque pas de statistiques dessus. Hein, ça fait partie du jeu. Donc là, je peux malheureusement pas trop fournir.
Oui, de respecter l'anonymat et pas voilà. D'accord. Ok. Alors, en annonçant le rendez-vous avec Émile, j'ai reçu pas mal de questions diverses et variées. Je vais te les poser parce qu'il y a une question qui revient souvent. Jitsi fonctionne mieux avec Chrome, Chromium qu'avec Firefox. Donc, pourquoi Firefox n'est-il pas complètement supporté par Jitsi? Et qu'en est-il de l'avenir? Est-il prévu côté Jitsi et ou de la Fondation Mozilla de travailler sur la prise en compte de Firefox pour Jitsi?
Ouais, c'est une prise en compte mutuelle. On est en train de travailler avec Niels et le reste de l'équipe WebRTC de Firefox pour pour s'assurer que tout fonctionne. Il y aura, je pense, au plus tard, d'ici 2 semaines, il y aura la première série de pull requests qui vont arriver et qui vont largement améliorer le support de Firefox.
Alors, pull request, on va dire que c'est des modifications dans le code, on va simplifier les choses. Voilà.
Pardon. Donc, c'est les premières modifications qui vont atterrir en production et les gens pourront les utiliser sur Meet Jitsi ou sur leur propre instance Jitsi Meet. Ensuite, il y a les modifications qui sont nécessaires pour vraiment... là, il y aura quelques petits problèmes comme la gestion de la perte des paquets, comme l'estimation de bande passante, hein, qui sont des fonctionnalités nécessaires du côté Firefox. Ils ont annoncé qu'ils ils ont complètement réprioritisé ces fonctionnalités pour justement pour le cas de Jitsi. Et ils ont annoncé que ça devrait arriver dans les versions stables d'ici 6 semaines. Donc d'ici 2 semaines, l'expérience devrait être largement améliorée. D'ici 6 semaines, on devrait être bon. Bon, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est comme souvent, hein, c'est très complexe. L'évolution de WebRTC, c'est un écosystème extrêmement complexe qui est très, il est vraiment nouveau. Hein, il y a plein de nouveaux standards qui ont été développés dessus. Il y a plein de choses qui ont changé en cours de route. Et il y a plein de solutions qui ont été développées d'une manière. Après, le standard a dévié un petit peu, changé de direction. Après, il a fallu du temps aux différentes implémentations, que ce soit dans les browsers ou dans les produits comme Jitsi, pour s'y retrouver. Donc, il faut pas trop chercher une question. Enfin, c'est pas vraiment une question de choix stratégique. Hein, c'est simplement la vitesse d'implémentation technique. Ouais, c'est ça.
On va rappeler ou expliquer que WebRTC, en gros, c'est une interface de programmation qui permet de faire de la communication en temps réel sur le web et notamment au niveau des navigateurs. Alors, justement, j'ai aussi une question, remonter une question. Donc, Jitsi s'appuie donc sur du WebRTC, donc du pair à pair, en fait, de la communication pair à pair. Et donc, pourquoi il peut y avoir des surcharges? Quelle est la raison technique?
Ah ouais, c'est une très bonne question. En fait, Jitsi est un pair à pair uniquement pour les conversations à deux. Quand il n'y a que 2 personnes, vous êtes mis en direct, en connexion l'un avec l'autre. Ce n'est pas possible vraiment de bien implémenter ça au-delà de 2 personnes, puisque en gros, vous avez besoin de multiplier vos propres flux d'autant de fois. Genre, si vous discutez avec 10 personnes, il va falloir envoyer vos flux en HD 10 fois. Donc, on part... Les demandes sur votre bande passante passent de 3 mégabits à 30. Et ça, c'est sans même parler du fait que, vu la façon dont WebRTC est implémenté, vous serez obligé de faire 30 fois le même encodage aussi. Donc, vous n'aurez tout simplement pas les ressources. Donc, ce qu'on fait, c'est Jitsi Video Bridge. C'est un routeur vidéo. Donc, il est dans le réseau. Il n'a pas besoin de décoder les paquets. Par contre, il les route. Quand il y a toi, Frédéric, maintenant on est à 3 avec William, toi et moi. Donc, quand toi, tu envoies tes flux sur Jitsi Video Bridge, il ne les décode pas. Il va choisir peut-être de ne pas en renvoyer certains, puisqu'on fait du encodage vidéo en couche de plusieurs résolutions. Donc, en fonction de ce que tu regardes, est-ce que moi, je suis en plein écran? Est-ce que je suis un petit carré dans le côté. En fonction de ça, tu vas recevoir soit mon flux haute qualité, soit mon flux basse qualité. Le Jitsi Video Bridge va se charger également d'estimer la bande passante qui est disponible jusque chez toi pour t'envoyer ce que tu peux te permettre de recevoir. Donc, il y a quand même une charge serveur qui est très, très conséquente pour tout ce qui n'est pas une conversation pair à pair. Même dans les conversations pair à pair, il est possible des fois que c'est une connexion directe n'est simplement pas possible pour des questions réseau. Donc, à ce moment-là, on passe par des relais turn. Donc, là aussi, on a besoin d'infrastructures pour assurer ça.
Oui, c'est le cas notamment quand les personnes sont, par exemple, derrière des box filtrées ou autres. Enfin, voilà, c'est... Pour des raisons techniques. Bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail trop parce que sinon, effectivement, c'est. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir effectivement cette notion que quand on est deux, c'est généralement c'est du pair à pair et au-delà, c'est autre chose. Donc, je continue sur la liste des questions tout en suivant l'horaire parce que le temps avance. Alors, il y avait une question, donc tout à l'heure tu l'as parlé du respect de la vie privée, quelque chose qui vous tient à cœur, et quelqu'un m'a fait remonter la question, pourquoi dans les serveurs que vous utilisez, il y a les Google Analytics, c'est-à-dire donc les analyses web de Google?
Ça, c'est une super question. D'abord, il n'y en a plus, hein, depuis à peu près une semaine, il n'y a plus de Google Analytics dedans.
D'accord.
On a fait surtout, déjà si on pensait que, si nous on croyait que ça enfreignait la vie privée, on ne l'aurait pas fait. Notre estimation de l'époque était que les données qui arrivent à Google, qui sont des données principalement techniques dans notre cas d'utilisation, sont dans le respect de la vie privée. Il n'y a pas de optimisation de marketing qui sont utilisées. On le faisait simplement pour observer l'utilisation du trafic, l'utilisation du service. Effectivement, Google Analytics inquiétait les gens, donc on s'est débrouillé pour s'assurer que les statistiques des statistiques techniques de maintenance du service, on va les récupérer ailleurs, on a enlevé Google Analytics. Par contre, il faut quand même rappeler que pour maintenir un service, il faut pouvoir l'observer, c'est juste nécessaire. Donc, il y a toujours besoin des analytics. Et je comprends que des fois, il y a des gens qui sont tout simplement pas OK avec ça. Et c'est pour cette raison-là qu'il est très facile d'installer sa propre instance du Teamit.
D'accord. Alors, je continue dans les questions. Et là, il y a une question alors, qui est sur le salon web, mais qu'on avait déjà remontée. Donc, je vais la reposer. Alors, pourquoi limiter la publication des vidéos qu'à travers un truc privateur comme YouTube et pourquoi pas avec Peertube dont on a parlé tout à l'heure?
Ouais, ce n'est pas une question de limitation, c'est simplement une question d'histoire de cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité a été rajoutée pendant qu'on était encore chez Atlassian dans le cadre d'une initiative qui était de supporter les assemblées globales d'Atlassian sur Jitsi. Et là, YouTube, pour des raisons diverses, c'était le service qui était le plus compatible avec les besoins de ce cas d'usage. Donc, on a tout simplement démarré par là. Il y a pas mal de gens qui sont OK avec ça. On a aussi eu la notion que, en gros, quand vous faites un flux public, il est public, quoi. C'est pas, il n'y a pas tellement de questions de vie privée qui se posent. Après, il faut dire que dans le projet, là, il s'agit de l'instance MeetJitsi, d'accord? Ouais. Le projet qui supporte cette fonctionnalité, il s'appelle Jibri. Il est très facilement modifiable, d'accord? La destination qui est choisie pour envoyer les flux, elle est dans un petit script, quoi. Donc, c'est très simple d'aller émettre d'autres services. Et sur ce propos, justement, on a nos problèmes avec YouTube, principalement parce qu'il est assez difficile d'implémenter un bon cas d'usage. On aimerait bien que quand il y a un live stream et que vous arrivez dans le meeting, vous voyez d'abord le live stream pour que vous n'ayez pas besoin de continuer vers la conférence elle-même, et qu'il y a d'autres boutons ensuite qui vous permettent de le faire si vous avez besoin. Et ce genre d'intégration, il est plus complexe, la gestion des URL, tout ça, c'est très difficile à mettre en œuvre avec YouTube. Donc, on est en train de regarder Peertube justement pour avoir notre propre infrastructure de live streaming. Mais encore une fois, ce n'était pas une question de on va faire YouTube et rien d'autre. C'était YouTube, c'est juste le premier pas le plus facile par lequel on démarre ce projet.
D'accord, super. Alors, il nous reste environ 3 minutes. Je vais te donner donc les 2 dernières questions en même temps. Il y avait une question qui était, est-ce que Émile compte commercialiser une version plus aboutie de Jitsi? Et ensuite, la dernière question, c'est quelles sont les prochaines fonctionnalités qui vont être intégrées dans Jitsi?
Une version commerciale qui intègre les technologies de Jitsi existe déjà, proposée par 8x8. C'est pas une question de plus abouti. Comme j'ai dit, on utilise les mêmes projets open source pour ce service que tout le monde. C'est plus une question de, MeetJitsi est un service anonyme. On n'a pas d'identité. Donc, on peut pas proposer des services qui ont besoin de l'identité. Vous permettre de sauvegarder vos enregistrements, avoir une historique de vos rendez-vous, synchroniser les différents équipements que vous utilisez. Tout ça, ce n'est tout simplement pas faisable sur MeetJitsi vu que c'est un service anonyme. Et c'est ce genre de services qui sont proposés par 8x8.vc, qui est la version commerciale. Ensuite, sur la deuxième question, les fonctionnalités sur lesquelles on travaille. Oui. Là, il y a Il y a pas mal de... Il y a un truc qui m'excite énormément. On a beaucoup parlé du cryptage, du chiffrement end-to-end, de bout en bout. Donc, j'aimerais bien passer une minute à parler sur ça. Aujourd'hui, comme j'ai dit, tous les données avec Jitsi qui sont envoyées sur le réseau sont chiffrées sur le réseau. Par contre, les outils de chiffrement qui sont utilisés aujourd'hui font que le serveur, il établit son propre contexte de chiffrement avec chaque participant. Ces contextes sont différents. Donc, on a besoin de récupérer les données d'une personne, les décrypter et les encrypter de la manière dont l'autre personne souhaite les recevoir. C'est pas possible d'avoir un chiffrement où le serveur n'est pas capable de regarder dans les paquets. Donc, nous, on n'a vraiment pas besoin d'avoir cet accès pour proposer le service. On ne veut pas l'avoir, mais techniquement, c'est impossible de ne pas d'y arriver. Ou en tout cas, ça l'était jusqu'à récemment. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans les browsers qui vont nous permettre de le faire. Donc, très rapidement, on espère faire des annonces qui vont justement permettre à tout le monde d'avoir le chiffrement de bout en bout dans Jitsi. Donc, je veux rappeler juste que normalement, c'est une problématique qui ne devrait pas vous poser de souci si vous avez votre propre instance, puisque vous la contrôlez. Il n'y a pas de souci, mais ça devrait vous permettre d'utiliser des choses comme Meet Jitsi avec à plus de confiance. Vous n'aurez pas besoin de nous faire confiance à nous. Ça serait tout simplement dans le protocole. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous excite énormément.
D'accord. Bah, écoute, c'est super. Et donc, j'encourage les personnes à suivre les annonces sans doute sur jitsi.org, à tester aussi donc sur meet.jit.si. On a parlé juste avant donc des chatons du collectif, donc chatons qui proposent notamment des instances Jitsi. Vous pourrez les retrouver sur le site entraide.chaton avec un s.org, donc des instances qui sont principalement gérées en France. Et vous pouvez, comme l'a dit Émile, installer vos propres instances très facilement sur des serveurs libres. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Émile?
Merci encore une fois pour l'invitation et si vous souhaitez aborder des sujets dans le futur en plus de détails, vous savez où me trouver. Merci.
Bah exactement. Écoute, en tout cas, merci de ta participation. Donc, on a fait l'échange sur une instance Jitsi, donc l'instance Jitsi, meet.jitsi, donc avec Émile Ivov du projet donc Jitsi. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée, Émile, et à bientôt.
Merci, Fred.
Merci
à bientôt.
À toi. Merci en tout cas. Alors, l'émission se termine. Je vais regarder vite fait les annonces finales. La principale annonce, c'est que donc demain, mercredi 8 avril 2020, de 13h à 14h, nous ferons une première émission spéciale avec la diffusion de musique libre diffusée dans l'émission. Les musiques seront commentées par Valentin de l'émission Les Joyeux Pingouins en Famille, toujours sur Radio Cause Commune. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver demain de 13h à 14h, donc sur causecommune.fm. C'est qu'une première émission, nous en ferons sans doute d'autres. Je précise aussi également que les cahiers pour débuter sur Debian ont été mis à jour avec la dernière version stable de Debian. Donc c'est sur le site debian-facile.org, lecture utile et exercice potentiel pendant cette période de confinement pour apprendre à utiliser cette version libre de ce système d'exploitation libre qui s'appelle le Debian. Un grand bravo pour le travail effectué par la personne. Donc je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission, NJ Gaudion, Luc, Laurent Jouetz, Émile Ivov, aux manettes de la régie aujourd'hui, William Agasvari, excuse-moi William. Je remercie également Sylvain Kutzmann et Olivier Grieco, directeur d'antenne qui s'occupe de la post-production des podcasts. On se retrouve mardi prochain, 14 avril 2020, de la même façon qu'aujourd'hui, nous prendrons des nouvelles de personnes. Donc il y aura 3 ou 4 sujets. Suivez les annonces sur april.org et sur causecommune.fm. Nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée. On se retrouve en direct mardi 14 avril. Et d'ici là, portez-vous bien.